Mon invité dans 12-15, c'est Philippe Bilger. Il a été avocat général, il a plaidé dans de nombreux dossiers, il est aujourd'hui magistrat honoraire et il publie Le bal des complaisants. Philippe Bilger, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, on vous entend souvent. Vous faites partie des décrypteurs 2012. Hein. C'est quoi les décrypteurs 2012 du reste?
C'est quelque chose que m'a proposé le Nouvel Observateur, c'est-à-dire d'émettre des opinions libres, si possible, sur la manière dont la campagne présidentielle se déroule et puis éventuellement tous les thèmes qu'elle peut susciter dans un esprit qui cherche à être libre et si possible pertinent.
Oui, si possible pertinent. Et vous avez même un blog qui a justice.
Au singulier.
Au singulier. Pourtant, il y a plusieurs justices. On est rattrapé par l'actualité. Philippe Bilger et Éric Woerth est entendu en ce moment même à Bordeaux dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Comment est-ce que vous jugez cette affaire? Est-ce que depuis le début, les mauvaises décisions ont été prises?
Il a fallu du temps pour qu'enfin la justice, au sujet de ces affaires, retrouve une forme de sérénité après Nanterre, après Alliot-Marie, après la Cour de cassation. Le juge Gentil, qui semble-t-il est en charge de cette affaire, agit avec méthode et je le crois avec rectitude. La mise en examen d'Éric Woerth compte tenu des éléments qu'on connaît en tant que citoyen semblait inévitable. Alors pour le reste, la présomption d'innocence continue à lui profiter. On verra ce qu'elle donne, cette instruction.
Oui, mais lorsque je vous disais que toutes les mauvaises décisions ont été prises, est-ce que c'est uniquement dû à la guerre intestine au tribunal de Nanterre entre le juge Courroy et la juge Prévost-Després?
Je ne crois pas.
Tout est venu de là, ou alors c'est...
Je ne crois pas. On a voulu au début, et ce qui a été une maladresse insigne, à la fois politique et technique, éviter que les enquêtes permettent l'ouverture d'une information. Je suis persuadé que si d'emblée on avait ouvert une information dès l'instant où les éléments le justifiaient, mais évidemment Philippe Courroy était là pour empêcher l'ouverture d'informations, on aurait eu moins de tintamarres médiatiques et politiques après. Aujourd'hui, évidemment, tout cela va se dérouler, va se manifester à 3 mois de l'échéance présidentielle, et ça n'est pas bon pour le pouvoir, c'est évident. J'espère que ce sera correctement mené au nom de la justice.
Et ça veut dire que trésorier d'une campagne, trésorier d'un parti, c'est vraiment le job impossible, hein?
Pas forcément. En tout cas, il faut éviter que ce poste de trésorier s'accompagne de certaines imprudences. Il faut faire attention. Je dirais que pour la classe politique, demain, il me paraît fondamental d'avoir dans la tête ce que j'appellerais une obligation de décence. Vous voyez, il y a des choses qui ne se font pas et qui ne vont pas bien ensemble.
Oui. Dernière question d'actualité, après on reviendra sur le bal des complaisants, mais parce que c'est forcément lié à ce qui se passe sur les réformes qui ont menacé la justice et qui finalement n'ont pas été faites, etc. La Cour de justice de la République, est-ce qu'il faut la supprimer, comme le dit François Hollande, en disant les ministres sont des justiciables comme tout le monde? D'autres rétorquent en disant non, ils ne sont pas justiciables comme tout le monde.
En évoquant cette égalité entre les ministres et les citoyens, il joue évidemment sur du velours.
Hein.
Je crois que la Cour de justice de la République, en dépit de la résistance manifestée hier par le président de l'Assemblée nationale ou le président du groupe UMP, je crois que pas grand monde ne se battra en sa faveur. Hier, la droite semblait elle-même très réticente à l'égard de cette institution, et la gauche, évidemment avec François Hollande, au nom de cette égalité, veut la supprimer. Il me semble que elle offre trop de désavantages, elle a conduit à trop de décisions un peu singulières, pour ne pas dire plus, pour que finalement il n'y ait pas une forme de consensus, peut-être le moment venu, sur la disparition d'une telle cour, sans que je garantisse que la justice ordinaire sera fantastique à l'égard de ses ministres.
Lorsque vous voyez la lenteur de la justice, est-ce qu'il vous paraît raisonnable de dire que le président de la République est un citoyen comme un autre? Est-ce que, malgré tout, alors si ça débouche à une condamnation de Jacques Chirac, alors qu'il n'est pas du tout en état de l'assumer lorsqu'on voit son état de santé et son âge, mais est-ce que c'est difficile d'imaginer un président de la République avec une épée de Damoclès judiciaire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pendant son mandat?
Regardez à quel point les affaires ordinaires, mais qui concernent le pouvoir, sont déjà traitées lentement, tout simplement parce qu'il y a des obstacles procéduraux. Il y a parfois des tentatives d'étouffement. Alors je dirais que il est scandaleux en soi que la justice soit si lente. Mmh. Mais les affaires que vous évoquez ne sont pas considérablement plus lentes que celles qui concernent des personnalités publiques qui ne sont pas le président. Mmh. Vous voyez, malheureusement, la lenteur est un vice consubstantiel à la justice pénale. Oui, oui. Et c'est très grave.
Ouais.
Et
c'est très grave. C'est consubstantiel en France, non? Enfin, à ce point-là, je veux dire, à cette extrémité-là.
Mais parce que, en même temps, il est évident qu'on ne peut pas se permettre une justice expéditive, mais il faut faire admettre que la justice lente, infiniment lente, n'est pas nécessairement la bonne justice. Ouais. Je crois qu'on n'a pas assez dans la tête que la justice pénale, elle est tout de même au service des citoyens, qu'il faut la rendre rapidement.
Philippe Bilger, pourquoi le bal des complaisants? C'est le mot qui revient le plus.
Alors, bon, je ne veux pas me défausser sur le remarquable éditeur qui m'a fait le plaisir, mais parce que quand on regarde un peu le livre avec François Sionneau qui a eu l'idée de ce livre, c'est que je mets en cause, il y a un fil directeur, un certain nombre de comportements qui sont caractérisés ou bien par de la complaisance à l'égard des autorités du pouvoir ou bien par une sorte d'inconditionnalité. Alors, le bal des complaisants, mon Dieu, ne me paraît pas un si mauvais titre de mon point de vue à partir du moment où il constitue un dénominateur commun à toutes ces attitudes de soumission dans la justice, dans la politique, dans le milieu culturel, voire dans le milieu médiatique.
Mais qu'appelle-t-on soumission, Philippe Bilger? Parce que, je veux dire, qu'il y a une politique du gouvernement, une politique de justice, oui. Quelque part, c'est toute la question de l'indépendance du parquet, c'est assez normal, malgré tout. Je veux dire que la même justice soit rendue sur l'ensemble du territoire, etc. Est-ce que c'est de la soumission lorsqu'un juge se soumet à cette politique? Non.
Pas du tout. D'abord, il faut, si vous me le permettez, évidemment, je sens que je vais jeter un germe d'anarchisme dans ce débat. Il est évident que la soumission, une forme de loyauté, plus exactement de confiance, on ne peut les manifester qu'à l'égard d'une personnalité, d'un ministre, d'un président
qui
inspire le respect. Vous voyez, je considère, vous le savez, que le garde des par exemple, Alliot-Marie a été véritablement calamiteux sur le plan judiciaire et donc j'aurais eu du mal si j'avais été directement soumis à ses ordres
Mais c'est ça quand même la démocratie. Je veux dire, il a été élu, le peuple a voté, il y a un gouvernement, je veux dire, c'est...
Elle a été nommée garde des Sceaux. Oui. Mais est-ce que vous avez l'impression que les magistrats sont entrés dans une forme de contestation, à votre avis? Je ne le crois pas. On met en cause parfois des comportements qui sont discutables, voire scandaleux de la part de tel ou tel ministre qui ne respectent pas eux-mêmes les règles au nom desquelles. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait dans les magistrats des anarchistes, pour reprendre mon expression de tout à l'heure, prêts à faire sauter l'État et le gouvernement, même sur le plan intellectuel.
Très très intéressant. À mon avis, le débat n'est pas clos, mais on va le poursuivre. On fait un petit détour par les infos. On se retrouve tout de suite, Philippe Bilger. Retour dans le 12-15 avec mon invité Philippe Bilger. Donc aujourd'hui, mardi sera honoraire et donc était jusqu'à peu avocat général à la Cour d'assises de Paris. Je rappelle que vous publiez chez Fayard, puisque vous l'avez rendu hommage, le bal des complaisants. Je vous demandais pourquoi cette complaisance. Vous disiez, mais oui, mais parce qu'il y a trop de soumission. Je vous disais, mais est-ce que respecter son autorité hiérarchique, même si on n'apprécie pas forcément son garde des Sceaux, mais il y a quand même une autorité hiérarchique. Et puis c'est ça, c'est ça la démocratie. Hein.
Mais si on n'est pas conscient de cette autorité, et en ce sens-là, je n'avais pas été scandalisé à l'époque par Rachida Dati qui avait dit, en tant que ministre, je suis le chef des procureurs, je vous rejoins totalement. Ça ne veut pas dire qu'on soit obligé d'avaliser tout ce qui vous semble aberrant. Vous voyez, je ferai une nuance, mais sur la nécessité de la confiance, de la fidélité, de la loyauté, je vous rejoins absolument.
Ouais. Est-ce que le problème, c'est quelque part, on sait, le président de la République qui a mené des réformes tambour battant. Vous parlez de Rachida Dati, la réforme de la carte judiciaire qui a fait grincer beaucoup de dents. Il a voulu refaire la réforme de l'instruction qui finalement n'a pas eu lieu. Mais bon, il y a eu un affrontement, on va dire, difficile. Est-ce que quelque part, dans l'attitude des juges, il n'y a pas une attitude anti-sarkozyste, hein?
Sûrement, chez certains, il faut bien voir que il y a eu des mesures au début du quinquennat mises en musique parlementaire par Rachida Dati. Tout ça n'a pas constitué une politique pénale, à mon sens. Il n'y a pas eu de hiérarchisation intelligente des actions. Et il est évident que les magistrats, dans leur ensemble, ont mis en cause, et peut-être pas eux-mêmes seulement, d'autres, la méthode politique mise en œuvre par ce gouvernement et ce pouvoir, c'est-à-dire une méthode un peu erratique, dictée par l'émotion. Alors il est tout à fait possible que dans certaines pratiques judiciaires, et je le regrette, il y ait eu la manifestation d'un anti-Sarkozy. C'est-à-dire que une telle exaspération devant la personnalité et parfois les actes de ce pouvoir, qu'en définitive, on a pu servir de certaines procédures pour exprimer quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver.
Oui. C'est ce lien, c'est l'indépendance qui est toujours, on a du mal à placer le curseur, parce que même normalement, vous dépendez aussi du Conseil supérieur de la magistrature, mais même sur la composition même, parce que est arrivé des personnalités extérieures, donc les magistrats ont dit, mais qu'est-ce que ces personnalités extérieures viennent faire là? Mais en même temps, ça retire ce côté complètement endogène qu'a la justice française.
Mais vous avez totalement raison. Moi, j'ai, de manière parfaitement utopique, j'avais suggéré qu'il fallait même retirer les magistrats du Conseil. Parce que je pense profondément que la magistrature n'est pas faite pour évaluer, juger, sanctionner, apprécier la magistrature. J'aurais préféré une instance où un pluralisme politique garanti aurait permis aux magistrats de venir s'expliquer. Je vous rejoins totalement. Il y a tout de même un corporatisme judiciaire qui constitue une entrave à la libération de l'intelligence, de l'inventivité, de la richesse intellectuelle.
Oui. Le bilan in fine de Nicolas Sarkozy en termes de justice, c'est quoi pour vous?
Médiocre.
Médiocre.
Médiocre. Alors je regrette que l'une des réformes, en revanche, les plus efficaces, les peines planchers, apparemment, doivent être supprimées si jamais François Hollande venait aux affaires à partir de mai 2012. Je ne voudrais pas que le jeu politique français tourne dans l'instauration de réformes parfois discutables et lorsque l'opposition vient au pouvoir, l'abandon de ses propres réformes. Vous voyez, il y a un catéchisme idéologique qui me semble un peu contradictoire avec l'intelligence politique.
Sur les jurés citoyens, donc ils viennent tout juste d'être mis en place dans certaines juridictions.
Ça fait partie précisément de la méthode erratique que j'évoquais tout à l'heure. Les jurés citoyens ne peuvent pas être dissociés de l'absurde réforme concernant la procédure criminelle. On ne peut pas à la fois mettre des jurés en correctionnel en disant qu'ils sont nécessaires et les enlever là où en réalité le lien entre le citoyen et la justice est le plus fort. Et il l'a démontré au niveau de la justice criminelle. Ouais. Autrement dit, ceux qui savent n'ont pas la parole et ceux qui ont le pouvoir ne savent pas.
Ouais, d'accord, on est bien parti. La majorité pénale, est-ce qu'il faut la redescendre ou au contraire, comme disait Pierre Joxe, qui était mon invité il y a quelques semaines, il disait surtout pas.
Écoutez, moi, je ne suis pas choqué par la volonté de réduire la majorité pénale. Ça ne me paraît pas une réforme capitale prioritaire. Mais je trouve que Pierre Joxe, puisque vous l'évoquez, devient un peu Saint-Pierre des Assises. C'est-à-dire que ça devient un peu angélique. J'aurais souhaité qu'il garde même dans ce nouveau métier un peu du réalisme et de la lucidité.
Maintenant, il est avocat d'office pour les mineurs.
Du ministre d'hier. Vous voyez, ça m'aurait fait plaisir.
Peut-être en conclusion, et à la suite du bal des complaisants, Philippe Bilger, s'il fallait, je sais pas, la réforme à venir pour la prochaine mandature, qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, l'urgence serait quoi?
Modestie, et surtout, et je le dis sans aucune ironie, je rêverais d'un grand garde des Sceaux de l'abstention qui se contenterait de faire un inventaire de la France judiciaire et qui injecterait des moyens partout où il en faut pour que les citoyens trouvent rapidement des réponses à leur inquiétude, à leur appel, à leur désespoir.
Oui, mais alors la France de un ministre de l'abstention, c'est pas forcément une figure emblématique comme vous le réclamez.
Mais vous savez, il faut beaucoup de courage et de talent pour savoir parfois s'effacer. Ouais. Et c'est en ce sens-là que, des trois gardes des Sceaux, j'ai largement privilégié Michel Mercier.
Et voilà, en tous les cas, c'est sûr qu'il ne fait pas entendre beaucoup parler de lui.
Il a de l'intuition politique.
Pardon, il ne fait pas beaucoup parler de lui, mais qu'on l'entend peu. Mais en tous les cas, visiblement, il est apprécié. Merci beaucoup.
Merci.
Le bal des complaisances est donc signé Philippe Bilger et c'est publié chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous.